Madame Marilyn Gill, candidate du Bloc québécois dans Manicouagan, qui a gentiment accepté notre entrevue pour faire un portrait des enjeux de son parti. Bonjour, Madame Gill.
Bonjour.
Donc, merci beaucoup d'avoir accepté pour qu'on puisse parler de quelques points qui touchent la Côte-Nord pour ces prochaines élections-là, particulièrement même la Haute-Côte-Nord. Vous avez fait des conférences de presse au courant de cette campagne-là. Et on a parlé de plein de choses, mais j'aimerais quand même vous entendre sur quelques points, dont entre autres, on pourrait commencer avec le désenclavement de la Côte-Nord. Donc, le fameux pont sur le Saguenay qu'on entend parler. On parlait même d'un forum qui pourrait voir le jour. Il y a eu la pandémie et tout, mais j'aurais aimé vous entendre là-dessus pour la prochaine élection.
Bien, c'est certain que quand on parle de désenclavement, c'est un sujet qui prend tous les Nord-Côtiers à cœur, la question du pont aussi. D'ailleurs, je l'ai vécu hier avec la grève également. Donc, ouais. Bon, on sait à quel point on est isolé dans une certaine mesure. Donc, pour moi, ça a toujours été un cheval de bataille. C'est certain que c'est un dossier qui est à long terme, mais il faut qu'on le prenne à bras-le-corps. Puis par exemple, j'ai parlé, oui, du forum. J'ai l'occasion, comme candidate, où j'avais comme députée, d'avoir accès à toute la Côte-Nord. Donc, l'idée du forum est que tous les gens puissent parler, dire où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller avec tous les sujets qui concernent le désenclavement. Évidemment, le pont en est une énorme partie. Et en même temps, de pouvoir montrer à l'ensemble de la population, l'ensemble de l'Est du Québec, l'ensemble du Québec, quel est ce dossier qui nous intéresse. Parce qu'on entend parler d'autres dossiers. On a entendu parler du troisième lien, par exemple. Mm-hmm. Donc, moi, je m'intéresse plus au premier lien nord-côtier qu'au troisième lien. Bref, il faut que ce soit connu parce que c'est une question politique. Et on sait que les gens viennent de plus en plus chez nous. De toute façon, ils voient c'est quoi la Côte-Nord, ils comprennent nos enjeux, mais il faut qu'on ratisse plus large pour aller chercher une mobilisation dans tout l'Est du Québec, idéalement au Québec, et avec des gens, je dois dire, de Terre-Neuve, Labrador, par exemple, qui sont également touchés par la question du pont. C'est certain que, bon, le trafic routier passe aussi pour aller là-bas par ici. Bref, on a des gens qui sont en faveur de ce projet un peu partout, il faut aller les chercher. Il faut aussi informer la population. Parce que oui, il y a la question du pont, mais il y a déjà de belles choses qui se font. Il y a le bureau de projet qui existe. Bon, la coalition 138 travaille fort là-dessus. C'est certain que c'est un dossier du Québec à la base, mais l'argent est à Ottawa. Et il faut que Ottawa donne l'argent sans condition et vienne appuyer la volonté du Québec. Donc ça, c'est mon travail aussi. Mais vous voyez, c'est un travail régional. Il faut que tous les acteurs soient là. Donc, c'est une de mes volontés. D'un côté, mobiliser les gens avec le forum. Ensuite, et pour faire les pressions, j'aime pas le mot pression, là, mais la sensibilisation, bref, le travail politique. Et ensuite aussi, informer la population pour qu'elle aussi puisse, en connaissant vraiment ce qui se passe. Parce que souvent, on a une idée, mais dans le menu détail, on ne sait pas. Puis, il y a quand même des bonnes nouvelles avec la question du pont. Mais c'est certain que le désenclavement, le général, là, je ne parle pas de la 138, puis du tunnel au Labrador, non plus que de la 389 ou du lien Terre-Rive Anticosti, mais ce sont tous des dossiers qui font partie du désenclavement. Puis moi, au-delà de ça, je parle de désenclavement, mais je parle d'occupation du territoire. On veut rester chez nous, on veut avoir une bonne qualité de vie, on veut être capable de nous développer, que nos enfants viennent chez nous après leurs études. Quoique le mien a décidé de rester pour le moment, là, mon plus vieux, mais reste que c'est ça, on veut garder notre milieu de vie justement vivant, garder les gens auprès de nous. Donc, c'est vraiment un des dossiers majeurs pour la Côte-Nord. Et je le sais, dernièrement, j'ai eu une panne en manganie et le nombre de messages que j'ai reçus, je vois à quel point ça va chercher les gens. Ça a l'air d'une anecdote, mais non, c'est pas une anecdote. C'est notre quotidien et évidemment, comme représentante des gens, bien, j'écoute les gens et je porte le message des gens et ça, c'en est un qui est très fort de la part de la population.
Mm-hmm, tout à fait. Il est très fort et je vous dirais même que cet été, entre autres, j'ai couvert un article justement sur cette attente-là qui était très, très importante. Il pouvait y avoir des enjeux différents au niveau économique du tourisme. Il y a des gens qui devaient annuler des activités ou même des hôtels ou des hébergements, des restaurants. C'est pas très intéressant non plus d'attendre, c'est magnifique, mais d'attendre autant d'heures, ça peut être aussi particulièrement désagréable. Et la réponse de la Société des traversiers était plutôt favorable en disant que les touristes pouvaient explorer, pouvait voir. Ça faisait en sorte qu'on en avait beaucoup des touristes qui venaient visiter la Côte-Nord. C'était, somme toute, une bonne nouvelle. Mais pour les gens aussi qui le vivent quotidiennement, à toutes les semaines, c'est moins une bonne nouvelle d'avoir cette attente-là. Est-ce qu'il y a un manque de reconnaissance ou est-ce que le message est difficile à passer? Est-ce que c'est pris au sérieux, la Côte-Nord, selon vous, avec l'expérience que vous avez des dernières années?
Moi, je vous dirais qu'au cours des dernières années, puis même, je pourrais reculer, il y a 20 ans, j'ai été attachée politique aussi de Michel Guimond. Il y a eu un discours qui a changé sur le plan du désenclavement. On était un peu, je dirais qu'on était séparés. Je pourrais dire ça comme ça. Bon, oui, il y avait l'Est, bon, Fermont, donc tout le monde, et je le comprends, hein, la première chose, on veut survivre, donc on est isolé, on veut travailler notre dossier, mais là, il y a vraiment une prise en charge régionale. On a fait une délégation, pas à mon dernier mandat, le précédent, justement pour la base Côte-Nord, entre autres, à Ottawa, et ma foi, ça a fonctionné, ça a débloqué, il y a eu une entente. Écoutez, quand on voit tous les élus, les chefs autochtones qui s'en vont à Ottawa, on rencontre les ministres, on parle du dossier, c'est difficile de dire que, bon, le vieux divisé pour régner, quand les gens sont divisés, ben là, on ne peut pas prendre de décision. Mais là, toute la Côte-Nord est derrière ce projet-là, d'où l'idée du forum à les ratisser encore plus large avec tout l'Est du Québec pour en faire parler. Donc, pour moi, je pense que c'est faire connaître aussi le dossier. Donc, il y a eu une évolution, il y a un consensus très fort de la part de la population qui n'était pas là il y a 20 ans. Ça a l'air loin, 20 ans, mais ça fait pas si longtemps. Donc, il n'était pas là il y a 20 ans. Là, on a vraiment une belle mobilisation de la part de tout le milieu, puis milieu économique. Vous en avez parlé pour nous qui vivons, oui, comme Nord-Côtier, mais je pense aux entreprises, aux agriculteurs, ça pose des problèmes. On ne sait pas tous ces détails-là, mais l'industrie forestière aussi, je pense à Boissaco. Donc, c'est très important pour nous et tout le monde est là derrière le projet. Donc, à partir du moment où tout le monde est là, mais les gouvernements n'ont pas le choix d'écouter et d'y travailler. Et finalement, cette mobilisation-là, oui, pour la 138 en Basse-Côte, mais on le voit pour le bureau du pont sur le Saguenay, Québec a décidé, comme je disais, c'est de la juridiction du Québec pour le bureau de projet, mais d'y aller. Donc, maintenant, il faut continuer à mobiliser les gens et tous les acteurs de tous les milieux pour que ça voit le jour et qu'on ait l'argent nécessaire pour le faire aussi, c'est ça.
On a parlé justement de ce désenclavement, mais ça nous amène peut-être aussi à la sécurité des routes, au réseau cellulaire, le prolongement de la 138, évidemment, la 389 aussi, qui n'a aucun réseau cellulaire. S'il arrive quelque chose de dangereux, évidemment, le risque est énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour au moins avoir ce minimum-là d'avoir un réseau cellulaire partout?
Il y a beaucoup de strates pour chacun des dossiers. Bon, il faut qu'il y ait des engagements d'une part, de la part du gouvernement fédéral. Il faut que les parts du gouvernement soient très importantes et que ça aille plus vite. C'est la première des choses pour ce qui est des échéanciers, parce que présentement, Québec va plus vite qu'Ottawa pour tout ce qui est, j'allais dire combler, mais bon, on pourrait dire combler les trous de téléphonie cellulaire ou d'Internet, bref. Québec va plus vite, donc il faut que l'argent arrive, c'est la première des choses. Puis c'est tellement un sujet, on l'a vu avec la pandémie, c'était peut-être vu comme un luxe, même si ça n'a jamais été un luxe, la question du réseau cellulaire ou d'Internet, mais on le voit, parce que je lis vraiment les deux, je pense qu'on va avoir accès, on va avoir accès à tout. Les touristes le voient, on le voit pour la question du travail, on l'a vu pour l'école, donc là c'est devenu un service essentiel. Donc qui dit service essentiel dit il faut donner un coup de barre et aller très rapidement, et c'est très justifiable dans le cadre d'une relance économique, parce que, et encore là, moi je le lis à l'occupation du territoire et la question de la sécurité que vous avez mentionné aussi. D'ailleurs, quand je disais que je suis restée en panne en Mégani, je suis restée en panne à un endroit où il n'y avait pas de réseau, j'étais contente d'être en été, de pouvoir aller frapper à quelques portes, hein, puis les gens n'étaient pas là, mais on voit, je me suis dit, ben, je suis bénie de ne pas avoir un accident. Si j'avais un accident, je ne suis pas capable de me déplacer, je suis sur le bord de la route, mon auto est au milieu de la route, qui me voit, qui va m'aider? Donc, les gens sont peut-être plus sensibilisés aussi, les gens sont venus sur la Côte-Nord, mais c'est vraiment essentiel, il en va de notre sécurité. Même s'il y a des gens qui nous disent, ben, regardez, il y a 100 ans, on ne vivait pas avec le réseau cellulaire. Non, mais la société n'était pas celle qu'on a aujourd'hui. Regardez, donc il faudrait que ce soit débloqué planifier très rapidement et Québec est prêt à le faire très rapidement. L'échéancier du fédéral va jusqu'en 2030 et plus, mais Québec, c'est 2023-2025. Donc, on est capable d'y arriver. On vient d'y arriver avec la Basse-Côte. On a travaillé sur ce dossier-là et il faut que le gouvernement, je dirais, il y a plusieurs strates. Oui, il y a la question de l'argent, de la volonté, mais il y a aussi lorsque les dossiers restent bloqués en manganie, c'est ce qui arrive présentement. On est prêt. Tout le monde est prêt. Il y a des offres, l'argent est sur la table, mais là, c'est au CRTC. Donc, on travaille avec le CRTC pour on ne donne pas de réponse. Et bien évidemment, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent sur ces dossiers. On l'a vu pendant la pandémie. Moi, je le vois dans différents dossiers où il y a moins de gens, où on n'est même pas rendu non plus à justement à l'informatisation des dossiers, ce qui fait qu'il y a d'énormes délais. Donc, sur le plan du gouvernement aussi, il faut qu'il soit lui aussi à l'ère d'Internet pour pouvoir régler ces dossiers-là. C'est fou, là, tout est dans tout. Mais donc, il y a vraiment plusieurs fronts pour y travailler. Mais question relance économique, ce serait extraordinaire. On a plein de gens en plus qui viennent chez nous, qui veulent travailler. J'en connais à Béjoin-Bitz qui travaille. Même, je vis à Pointe-le-Bel. J'ai rencontré quelqu'un à Pointe-aux-Outans qui vit en télétravail, même si la majorité de son travail se fait à Montréal. C'est à partir de Pointe-aux-Outans. Donc, il faut qu'on se dote d'infrastructures de base, d'infrastructures essentielles. Et encore une fois, ça fait partie de l'occupation du territoire. Là, j'en démarre pas. Là, c'est ouais. notre gros dossier. À nous, en fait. On veut que les gens restent, on veut que les gens viennent chez nous. Donc, on a besoin de leur offrir cette base-là qu'ils retrouvent ailleurs si on veut les attirer chez nous aussi.
Et ça m'amène à peut-être vous poser la question parce que M. Vigneault du Parti conservateur expliquait que si on faisait une reconnaissance de la route nationale, ça pourrait régler plusieurs dossiers, dont entre autres le désenclavement ou même la sécurité routière. Vous en pensez quoi de rendre la route nationale?
Ben, en fait, si ça existait, je trouverais ça intéressant, mais ça n'existe tout simplement pas. En fait, la reconnaissance des routes nationales, c'est dans les parcs nationaux du Canada, donc c'est chez Parc Canada. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un peu comme, on va dire, route transnationale, transcanadienne, en fait, le vrai terme, mais ça va être un peu comme la 138 chez nous, où on va écrire Chemin du Roi, ou vous voyez, la route 132, route Marie-Victorin. Donc, c'est une appellation de route, mais il n'y a pas de somme qui vient avec ça, il n'y a pas de budget qui vient avec ça, il n'y a aucune, c'est pas un programme. Donc, ce serait l'inventer. On pourrait l'inventer. Par contre, où c'est intéressant, c'est pas pour la question ici, mais c'est pour la question du tunnel Labrador-Québec, parce que là, on parle d'une reconnaissance d'un lien interprovincial. Ça, c'est une autre chose, mais là, ça peut être intéressant parce que oui, c'est le fédéral qui doit donner l'argent et ça fait partie de sa compétence et ça peut nous aider pour le désenclavement. Tandis que pour l'idée de M. Vigneault, mais comme je dis, c'est pas un programme, ça n'existe pas. Donc, la reconnaissance, ce serait tout simplement symbolique, dire oui, la route traverse le Canada, mais à part ça, il n'y a aucune somme qui vient avec ça.
OK. Puis, si on parle, peut-être on peut faire un... Vous avez parlé en fait en conférence de presse de la relance économique de l'industrie forestière. C'est un thème dont vous tenez beaucoup. Ça peut être aussi vraiment particulièrement intéressant pour la Haute-Côte-Nord. Ce serait quoi les projets et qu'est-ce qui pourrait être réaliste?
En fait, la première des choses, ce serait que le gouvernement investisse dans la forêt, le gouvernement canadien. C'est un cheval de bataille pour moi, mais aussi pour le Bloc québécois, mon chef particulièrement, parce qu'on n'arrête pas de parler de transition verte, puisqu'on voit de la part des gouvernements, là, que ce soit conservateur, que ce soit libéral, c'est que l'argent va vers l'ouest, vers l'industrie pétrolière, encore et toujours. Et on nous dit, maintenant, mais là, on va réduire les émissions de carbone. Pourquoi est-ce qu'on continue à investir dans une énergie qui finalement n'existera plus à un certain moment? Il faut qu'il y ait une transition. Au Québec, on est des chefs de file et on aimerait qu'il y ait autant d'argent qui s'en vienne chez nous pour la forêt. On a eu un maigre 55 millions pour la forêt dans le dernier budget. Ça a été budgété. Je me rappelle, et François Blanchette, mon chef, avait discuté avec M. Trudeau, disant, là, vous n'avez rien mis pour la forêt. Donc, on a un maigre 55 millions maintenant. Mais il y a des 27 milliards pour l'industrie du pétrole de l'Ouest qui n'a aucun avenir. Donc, nous, on n'est pas contre l'Ouest. On voudrait aussi qu'il y ait une transition énergétique, une transition économique, et il faut que le gouvernement les soutienne. Mais on ne peut pas continuer à faire du même en se disant qu'on va produire quelque chose de différent, quelque chose de mieux. Et la forêt en a besoin. Avec la forêt, bon, il y a la séquestration du carbone. Donc, déjà là, on réduit nos émissions. Puis en même temps, on crée des emplois dans toutes nos régions. Puis quand j'ai fait faire, certains que ça c'est comme député, mais j'ai fait faire une étude sur la forêt nord-côtière aussi, puis sur ce qu'on pouvait faire. Et quand on voit l'exploitation de la forêt qu'on est capable de faire, mais il manque de la part des gouvernements parce que nos industries travaillent fort. Je vois Bois-Saco en Haute-Côte-Nord, ça fait des années, les gens ont l'industrie à cœur, ils essaient de trouver plein de débouchés pour la forêt. Ils voient à long terme, ils voient pas simplement à court terme, ils sont vraiment ancrés dans le milieu. Là. C'est ce que j'aime chez nous, les entreprises sont là, mais on s'entend que c'est sacré-cœur, puis le secteur best aussi qui est vraiment dans mm-hmm. cette industrie-là. Ça leur appartient d'ailleurs, hein, dans une certaine mesure, c'est une coopérative. Bref, c'est ça, on voit tout ce qu'on est capable de faire, mais on n'arrive pas à maximiser et il n'y a pas d'aide de la part des gouvernements. Les entrepreneurs veulent bien sûr se développer seuls, mais souvent on a besoin d'un coup de pouce pour de la recherche, par exemple, pour la transition dans certaines industries, pour améliorer la productivité, pour nous défendre sur le marché américain. Ça fait 30 ans que ça dure. Il faut que le gouvernement prenne des engagements fermes, mais la forêt est toujours sacrifiée au profit d'autres industries, comme celle de l'acier qu'on voit toujours en Ontario. On va défendre d'autres secteurs industriels, puis la forêt va servir de monnaie d'échange. Puis c'est certain, chez nous, c'est hyper important. On est une des régions qui devrait avoir le plus de foresterie, mais on la voit disparaître. On le voit avec Résolu à Baie-Comeau. On le voit avec Arbec, justement, qui était lié à Résolu. Toutes nos industries forestières sont liées d'une manière ou d'une autre par leur produits résiduels, donc les uns et les autres transforment. Arbec, qui, là, je sais que c'est loin de la Haute-Côte, mais bon, je dis que c'est relié. Eux ont un modèle d'industrie qui serait unique en Amérique du Nord, qui vraiment aide justement à nous décarboniser, oui, l'environnement, mais l'économie aussi, et on ne les soutient pas. Il faut vraiment qu'il y ait un coup de barre qui soit donné, puis que ça tombe vraiment sur le dessus de la pile la question de la forêt et qu'on développe de différentes façons parce que la forêt, c'est une énergie. Oui, c'est une énergie aussi. C'est une ressource renouvelable, c'est durable. Il faut vraiment qu'on fasse ce virage-là. Puis je suis vraiment contente. On a un caucus du bois au Bloc québécois, donc c'est vraiment ce qui s'appelle comme ça, le caucus du bois, où on veut développer. Donc, c'est certain que oui, pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Là, c'est essentiel, mais également pour l'ensemble du parti. On est une région forestière, on veut rester forestier, on le restera, mais on a besoin d'un coup de pouce là, sur tous les plans de la part des gouvernements. Nous, on est prêts, donc il faut qu'ils entendent puis qu'on fasse partie de cette relance-là parce que M. Trudeau disait qu'il faut qu'elle soit verte. Bien, on a une solution pour qu'elle soit verte, donc entendez-nous et allons de l'avant avec la forêt.
Oui, parce que ça m'amène aussi à parler d'un point de presse que vous avez que vous avez donné, et il y avait beaucoup d'idées où on pouvait essayer de rendre la région de la Côte-Nord le plus autonome possible entre municipalités, même si le territoire est très, 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 très grand. Dans le fond, ça pourrait être aussi intéressant à un certain niveau quand les idées sont plus ou moins entendues, mais qui pourraient rendre peut-être la Côte-Nord un petit peu plus forte.
Oui, par exemple... Pour ce qui est de la question de la souveraineté alimentaire ou de la sécurité alimentaire, c'est certain que tout ce qui est disons, je ne dirais pas les difficultés, mais des défis auxquels on fait face tous les jours pendant la COVID, disons, avec toute mon équipe au bureau, on a vu à quel point où étaient nos talons d'Achille, où on était fragiles. C'est certain qu'on a déjà une idée, mais quand on arrive dans une période de crise, on se rend compte à quel point c'est important et justement, le territoire est immense et on voit une industrie émergente un peu partout sur la Côte-Nord, en Haute-Côte-Nord aussi. C'est certain qu'en Haute-Côte, il y a déjà l'agriculture plus traditionnelle. Il y en a moins, il y a moins de fermes laitières qu'il y en avait auparavant à Sacré-Cœur, mais on a quand même des animaux de boucherie, on a du maraîcher, on a de l'apiculture, bien sûr, je pense à Herbe à Miel. Donc, on a des gens partout qui produisent et on ne voit pas le soutien de la part du gouvernement fédéral. Les programmes la plupart du temps s'adresse à des grandes industries avec des grandes productions où coûte très cher. Par exemple, je pense aux assurances pour nos plus petits producteurs où ils ne voient pas leur compte. En fait, c'est soit qu'il faut qu'ils soient très, très gros et très solides pour pouvoir bénéficier de programmes. Et s'ils sont tout petits, ils ne se qualifient pas. Donc, et pour nous, ce n'est pas la même agriculture qu'ailleurs. Premièrement, on est au nord. Mm-hmm. Et ensuite, c'est des petites productions plus locales, mais c'est un beau modèle. On ne pollue pas vraiment. Souvent, il y a du bio, mais il faut les soutenir. Et c'est beau de voir ces industries-là partout, mais on veut les soutenir pour qu'elles puissent avoir une pérennité. Et certaines veulent se développer un peu plus. Et ça nous assure d'avoir, bien sûr, de la nourriture fraîche localement chez nous. Et en même temps, de créer des emplois. Ça crée des emplois. Puis il y a beaucoup de... On voit, il y a beaucoup de jeunes, c'est beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur aussi, même partout sur la côte, Longue Pointe de Mingan, même ici, pas très loin, Gaïa, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, la haute côte aussi. Donc, on se dit, ben, il y a des gens de partout qui viennent devenir, ça fait bizarre, mais c'est vraiment ça, qui viennent devenir agriculteurs chez nous. Donc, ça les ancre aussi chez nous. Encore là, pour l'occupation du territoire, je trouve ça extraordinaire. Ça nous assure ça. Et pour toutes les populations, il y a vraiment de très beaux projets aussi en lien avec les personnes aînées, leur fournir justement cette alimentation-là. On ne veut pas aller à l'encontre de ce qui existe déjà. On adore nos épiceries et nos marchés d'alimentation sont déjà implantés chez nous, mais il y a plein de beaux projets justement qui fait que ben, plutôt que de vendre une tomate de tel endroit, ben, on va vendre celle de la Côte-Nord et c'est bon pour à l'épicerie et c'est bon pour tout le monde. Mm-hmm. Donc moi, ça m'intéresse et je dois vous dire que ça vient aussi de la population parce que on est vraiment, des fois je dis que la Côte-Nord, c'est une île, là. On sait, on a parlé de l'enclavement justement, mais donc un peu partout, on est dépendant de ce qui vient de l'extérieur, donc d'en avoir chez nous, un peu comme tout le monde. Il y a des serres de tomates au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc on serait capable d'en avoir chez nous. Il faudrait qu'on nous aide justement, et je pense que ça fait partie, je pense pas, je le sais aussi, de la responsabilité du gouvernement fédéral qui parle d'alimentation et de sécurité nordique, sécurité alimentaire, mais la Côte-Nord est un peu laissée de côté de ce point de vue-là, et pourtant on est loin et on n'a pas les mêmes liens qu'ont les autres régions du Québec ou du Canada, je vous dirais.
Et en terminant, parce qu'évidemment, on pourrait parler de tellement de sujets, mais le temps file, j'aimerais vous entendre sur l'assurance-emploi. Il y a eu une conférence de presse la semaine dernière, interprovinciale, pour dénoncer cette réalité-là de l'assurance-emploi pour les travailleurs qui se retrouvent à un certain moment dans l'année dans un trou noir où ils n'ont aucun revenu. Il y avait aussi des entrepreneurs qui étaient là et qui étaient débordés en expliquant que c'était une question d'employés. Les employés quittaient, les employés trouvaient autre chose parce que malheureusement, il y avait une période de trou noir qu'ils ne voulaient pas vivre. Et les entreprises se posaient la question, est-ce qu'on va survivre? Est-ce qu'on ne survivra pas? Et même que les mots « on est en train de faire mourir Tadoussac » a été nommé. Donc là-dessus, j'aurais aimé vous entendre sur ce dernier point.
C'est certain que ce sera toujours un cheval de bataille. Moi, je le vois. Puis l'exemple qu'a donné Tadoussac, là, c'est l'exemple parfait où on voit que tout le monde... Parce que les gens, souvent, de l'extérieur, vont dire que c'est seulement les employés, mais c'est toute une communauté qui a besoin de cette assurance-emploi-là, qui veut vivre à l'année. Et quand je disais tout à l'heure qu'on a mis l'accent, on a mis le doigt là-dessus aussi pendant la COVID, pour moi, qui était députée de la Côte-Nord, je vais vous le dire, j'avais une grosse frustration puis une colère parce qu'on s'est mis à dire à ce moment-là que tout le monde devait avoir accès à un salaire à l'année. Donc, on était pour donner des prestations pour pas que les gens manquent de quoi que ce soit pendant l'année. Moi, ma colère a été à l'effet que c'est ce qu'on vous dit à toutes les années, que nous, il y a des gens chez nous qui ne peuvent pas arriver à mettre du pain, du beurre sur la table, qui ont un bout, ils n'ont absolument rien. Puis parfois, aussitôt qu'en décembre, jusqu'à la reprise de la saison en mars ou en avril, et je me dis là, ben, regardez, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, si c'est bon pour les autres, c'est bon pour la Côte-Nord aussi. Donc, il faut qu'il y ait une réforme de l'assurance-emploi, une réforme et qu'on entende tout le monde. Et la pénurie de main-d'œuvre, j'aime ça parce qu'on en parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, mais on voit que ça en fait partie. C'est normal. Les gens vont vouloir peut-être partir de la région ou aller ailleurs que dans nos villages. Et c'est important que les villages demeurent. Et voilà, à cause de ça, donc il faut qu'il y ait une réforme de l'assurance-emploi. On parle de plein de sujets, mais à la base, il faut être capable de garder nos gens chez nous. Et je le dis tout le temps, c'est l'industrie qui est saisonnière, c'est pas nos travailleurs. Puis les travailleurs ont le droit de ne pas aller chercher de la job à 200 km ou à 100 km autour. Ça n'a aucun sens. On veut des communautés vivantes. On veut que les gens restent chez nous. Donc, c'est vraiment une réforme. Et il n'y a pas un parti qui parle de réforme, même pas le Parti libéral ne parle pas de réforme. Et la dernière, il y a eu Celle d'Harper en 2008, il y a eu Axworthy en 96, et à toutes les fois, on enlève des... je vais dire des droits parce que c'est nous qui payons l'assurance emploi. Donc, on enlève des droits à la population. Il faut qu'on s'engage à ce qu'il y ait vraiment une réforme. On met la barre dans le programme et on écoute ce que les groupes de chômeurs nous disent depuis des années. Parce que ce qu'on a fait avec Axe Working en 96, on a reculé en 2008, on a reculé avec Harper aussi. Donc, je dois vous dire bien personnellement et bien sincèrement que pour moi, je souhaiterais un beau gouvernement minoritaire, donc pour qu'on puisse discuter. Parce que les gouvernements minoritaires sont un petit peu plus souples à ce moment-là, parce qu'ils sont moins certains. Il y a peut-être moins d'arrogance, si je pouvais le traduire comme ça, ce qui fait en sorte qu'on arriverait à vraiment une discussion. Mais c'est une réforme dont on a besoin, pas du patchage. Il y a beaucoup de petites mesures qu'on voit là, qui émaillent chacune des plateformes politiques des autres partis, mais nous, on demande une réforme. On repart, on écoute tout ce qui a été fait, puis vraiment, on écoute les travailleurs, les employeurs, puis c'est les élus, c'est tout encore là, un peu comme pour le désenclavement, tout le monde est d'accord sur la Côte-Nord. Donc, et j'aime bien que ce soit des employeurs qui en aient parlé aussi parce que ça détruit ce mythe-là que les employeurs ne veulent pas qu'il y ait d'assurance-emploi. Donc, il faut les déboulonner encore, ces mythes-là. C'est presque, et je le dis, et vraiment, c'est même pas candide, mais c'est presque un outil de développement chez nous. Ça garde les gens chez nous. Donc, c'est pas juste une mesure. C'est vraiment très important. Là, c'est essentiel chez nous. Donc, voilà. Vous connaissez, j'en ai parlé beaucoup, mais ça me prend vraiment au trip aussi, ce sujet-là. Donc, voilà. D'où la passion hier, là.
Et quand Action Chômage Côte-Nord demande un 420 heures pour 35 heures semaine à l'année, c'est possible. Cette réforme-là, elle est réaliste. Là.
Ben, c'est réaliste. On l'a vu pendant la COVID. Ça aussi, c'est une preuve qu'on a faite que quand on veut aider les gens, on est capable de sortir l'argent. Puis, il faut jamais qu'on oublie non plus. Puis ça, je trouve que c'est important en politique. C'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu me lancer en politique. C'est que cet argent-là nous appartient. Ces programmes-là, c'est à nous. Oui, on vote pour des gens, mais il faut que les gens défendent ce que nous, on veut comme valeur pour que finalement, ça aboutisse. Et on a ce contrôle-là. Donc, si la population décide non, je veux le faire, ça se fait dans certains pays scandinaves, hein, sont vraiment en avant de nous pour ça, là, soyons humbles, ça se fait. Donc, si on décide, si c'est un choix collectif, c'est un contrat social, qu'on met de l'argent là, qu'on règle cette difficulté-là, bien, ça peut se faire. C'est à nous de le décider, en effet. Donc, je salue d'ailleurs l'alliance interprovinciale parce qu'il y a d'autres gens qui vivent les mêmes choses. Et moi, je pense que toujours de travailler avec plus de gens, mobiliser plus de gens, c'est ça qui va faire qu'on va être entendu puis qu'on va avoir gain de cause à un certain moment. Donc, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer pas la pression, j'arrête pas de dire, j'aime pas ce mot-là, mais mettons-la un peu aussi pour qu'on soit en mesure de changer cette réalité-là. Et voilà, je salue toute la population de la Haute-Côte-Nord qui fait une belle job pour l'assurance-emploi. Là. Si c'était comme ça partout, je dirais au Québec et au Canada, ben, on l'aurait bien sûr, notre réforme.
Donc, ça fait le tour. Évidemment, il y avait d'autres points, mais ça fait le tour pour ce portrait-là. Merci beaucoup pour votre temps, d'avoir pris autant de temps aussi pour nous aider à comprendre les enjeux du Bloc dans Manicouagan.
Hey, merci beaucoup.